Et non seulement Sans détour, mais en plus, la revue de presse de Sans détour, et on a le plaisir d'avoir une fois de plus avec nous Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu es revenue de ta grande tournée planétaire. Tu n'as pas tout à fait. Tu n'es pas atterri dans nos studios. On fait ça par téléphone aujourd'hui, mais à que cela ne tienne, on a toutes sortes de choses à découvrir. Alors, où est-ce que tu nous amènes pour commencer?
Je vous amène donc à Saint-Pierre-d'Irube, où on a ouvert un nouveau pôle d'accompagnement pour les enfants en situation d'handicap.
Saint-Pierre-d'Irube, pour placer les gens un peu, là, c'est le Pays basque. On est dans le sud-ouest de la France, quelque chose comme ça.
Effectivement, je pense, mais je te fais confiance là-dessus,
Ah, ben, j'ai
François.
fait un peu de recherche, voilà. Alors, je sais que c'est quand même une petite commune qui est pas loin de Bayonne, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ça. Il y avait un manque dans cette communauté-là pour des services d'accompagnement, puis ils en ont mis en place.
Ils en ont mis en place, donc on a un nouveau local qui s'appelle Andy Ressources 64, qui va permettre donc un accompagnement aux professionnels et aux familles qui ont affaire à des enfants en situation de handicap. On parle donc de nouveaux pas vers la réinclusion pour eux et ça va aussi permettre donc d'ajouter les services aux enfants de 0 à 6 ans qui n'étaient pas admissibles aux anciens services à cet endroit-là. Donc, ça va permettre de mieux accompagner les familles et professionnels qui ont affaire à des enfants en très jeune âge qui sont en situation d'handicap.
Bon, ben bravo. On a d'autres initiatives comme ça un peu partout en France. Il y en a d'autres aussi où on essaie de sensibiliser les élèves dans les écoles, dans les collèges.
Oui, on va à 900 de... À Nogent-le-Rotrou, j'arriverai pas à le dire, à Nogent-le-Rotrou,
Oui.
dis-je, donc, où effectivement il y a une école donc de Saint-Joseph, l'école Saint-Joseph qui a mis en place donc une semaine de sensibilisation à l'handicap pour ses élèves. Donc, d'un côté, on a des élèves de CM2 qui vont faire une course à pied, donc symboliquement pour qu'ils vont courir pour des personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils vont courir avec différents handicaps qui vont être simulés, par exemple de mettre des bandeaux sur les yeux ou de mettre différents accessoires que des personnes en situation de handicap utilisent pour être capables d'être sensibilisées à la condition de ces gens-là. Donc, vont faire la course avec des obstacles simulés par rapport à pour simuler le handicap de leurs collègues, élèves et étudiants qui ont des situations de handicap.
Et ils vont jouer aussi au volleyball assis, au boccia, qui est le boccia est une pétanque en fauteuil. Hein?
Oui, donc
Exact.
pour les plus jeunes, effectivement, il y a les cinquièmes, quatrièmes et les troisièmes. On a aussi des sports comme ça pour être capable de leur faire voir les sports adaptés. Donc, entre autres, effectivement, le boccia, le volleyball, l'optique de leur montrer la réalité des jeunes en situation d'handicap.
Ben ça, c'est une belle initiative de sensibilisation. Nogent-le-Rotrou, hein, ça, j'ai fait des recherches aussi, j'ai fait ma géographie en week-end. Ça, c'est dans le Val-de-Loire, voilà.
Vous le prononcez mieux que moi,
Ah,
en
ben c'est parce que je me suis pratiqué.
cas.
En plus, il va y avoir la diffusion d'un film destiné aux élèves dans l'école. C'est le film We Have a Dream. Alors là, il ne faut pas se tromper, c'est un film français qui a un titre en anglais. C'est ça, c'est un film de Pascal Plisson, 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 qui est allé à la rencontre de jeunes un peu partout dans le monde qui vivent des situations d'handicap. C'est un film qui d'ailleurs a reçu des prix. Alors, peut-être c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le net, le film We Have a Dream, qui est un film français, malgré son titre. Il y a d'autres régions en France aussi où on parle d'intégration puis d'accessibilité.
Oui, à environ, donc on cultive ce qu'on appelle le plaisir de nager, c'est-à-dire un projet pour les personnes en situation de handicap. Deux fois par semaine, l'association Tous baignent organise des sessions de natation pour les personnes en situation de handicap où les personnes, vous l'avez compris, peuvent nager ensemble et faire de la socialisation. On leur permet de bouger et de faire de l'exercice, ce qui est bon pour leur handicap, les douleurs et tout ce qui vient avec.
Oui, puis en même temps, ben, ça leur permet d'avoir accès à des équipements sportifs et aussi peut-être je dirais, de voir à ce que le public, en général, dans les installations comme les piscines municipales, puisse constater que ben, voici des personnes en situation de handicap qui se baignent là. Puis c'est
Ce
pas
qui devrait pas
l'exception.
être très impressionnant, mais effectivement, là, pour peut-être des employés qui n'ont pas eu de contact avec ça ou d'autres baigneurs qui n'ont pas eu de contact avec ça, c'est peut-être un moyen de leur montrer que des personnes en situation de handicap peuvent effectivement se baigner.
Oui, voilà. Puis ça, non seulement ils peuvent, mais ils peuvent aimer ça en plus.
Oui,
Alors,
ils ont là le droit.
oui, exactement, tout à fait. Moi, j'ai fait un petit bout de chemin cette semaine. J'ai relevé dans le très sérieux et renommé magazine The Economist une nouvelle au sujet des poursuites aux États-Unis pour l'accessibilité du web.
Oui. Et en fait, on parle, moi aussi, j'ai eu cette nouvelle avec un peu de consternation. On parle, entre autres, d'un citoyen, de l'histoire d'un citoyen qui s'appelle Monsieur Dengler, qui est un citoyen non natif américain, un ingénieur, qui est en situation de problème visuel, donc qui ne voit pas et qui essaie d'avoir accès à des documents pour devenir citoyen italien, mais qui ne peut pas faire une demande de rendez-vous au consulat italien de San Francisco parce que le site web n'est pas adapté à sa condition. Son lecteur qui lit à voix haute, donc les images et les textes sur Internet, sur les sites web, est incapable de lire le contenu de
Ah.
ce site web-là. Donc, il ne peut pas prendre rendez-vous pour
Je
aller au
pourrais dire
consulat.
quelque chose de méchant, puis dire que c'est probablement les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Clic Santé, là.
Ben, probablement, ou en tout cas, ils ont peut-être étudié à la même école.
Ouais. Mais
Mais on ne le dira pas.
non, on ne le
On
dira
le dira
pas.
pas.
Mais dans l'article, c'était vraiment une mentalité différente qu'on peut constater aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une loi très importante qui s'appelle
Oui.
American Disability Act. Et qui date déjà de plus de 30 ans. Mais l'application des lois aux États-Unis, souvent, est laissée je dirais, aux fluctuations de l'offre et de la demande, dans le sens où le législateur s'attend à ce que si des personnes en situation de handicap se voient refuser l'accès, que ce soit à de l'information ou à un endroit physique, ainsi de suite, qu'ils prennent la chose en main puis qu'ils fassent des poursuites. Alors là, maintenant, aux
Oui.
États-Unis, où ils ont la gâchette un peu facile là-dessus, mais maintenant, il y a une multiplication des poursuites auprès des entreprises qui ont des sites web qui ne sont pas accessibles aux personnes
Effectivement.
handicapées visuelles. Et là, ça crée un effet pervers parce que les entreprises se disent, ben, on est aussi bien de payer l'amende parce qu'on va se faire poursuivre plutôt que se donner la peine de rendre le site accessible.
Effectivement, il faut savoir aussi que dans le cas de M. Dengler, ce qui est d'autant plus fâchant, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre le rendez-vous pour nous. Hein. C'est quelque chose qui est illégal à faire. Donc, M. Dengler, dans son cas, on ne pourrait pas demander de l'aide à quelqu'un pour prendre le rendez-vous parce qu'il pourrait lui-même se faire poursuivre et avoir des problèmes au niveau criminel. C'est
Oh.
aussi stupide que ça.
Ouais, ben, ce qui veut dire que parfois le système judiciaire là-bas, là, qui est un peu, je dirais, comme un monstre tentaculaire, là, ben, ça aide pas beaucoup l'application du American Disability Act.
C'est un des quelques problèmes là, de justice aux États-Unis.
Oui, voilà, on en connaît d'autres qui font les manchettes. On a, juste avant de revenir chez nous, en fait, il y a une nouvelle qui rejoint un peu ce qui se passe chez nous parce que c'est une série québécoise qui s'est illustrée.
Oui, c'est une série québécoise qui s'est illustrée, François. Donc, on parle de la série à propos d'Antoine qui s'est illustré, mais je te laisse en parler parce que tu es plus au courant que moi.
Ah, ben, parce qu'à propos d'Antoine est une série québécoise dont on a eu le plaisir de parler ici à Sans détour l'an dernier. Qui est disponible sur Illico. Ils viennent de remporter un prix qui s'appelle Diversity TV Award, qui a été remis à Cannes. Cannes, qui est connu pour son festival de films, mais à l'automne, à chaque année, il y a un grand rassemblement des productions de télévision à travers le monde où là, des chaînes de télévision s'échangent ou marchandent des séries télé et offrent récompenses les meilleures. Et la série québécoise À propos d'Antoine, qui a été créée par Kathleen Rouleau, qui est une humoriste comédienne, qui raconte sa vie quotidienne avec un homme d'affaires joué par Claude Legault et qui s'intègre à une famille où il y a un fils lourdement handicapé qui s'appelle Antoine Parent-Bédard, le comédien, qui joue son rôle, si je peux dire, qui joue qui il est dans la vraie vie. Et cette série-là qui a fait une belle figure ici au Québec le printemps dernier, qui est encore disponible sur Illico, ben, elle a remporté un prix. Bravo!
Effectivement, et ça montre aussi au niveau de l'accessibilité hein, pour les acteurs en situation de handicap, on a fait un grand pas en mettant Antoine, donc le jeune garçon qui est quand même polyhandicapé dans son propre rôle.
Tout à fait, voilà, parce que ça, c'est un autre combat qui commence à basculer un peu, mais il y a du chemin à faire. Après la pause, on revient chez nous, puis là, on va parler de maltraitance.
Oui, malheureusement, on va parler de maltraitance dans quelques minutes.
Voilà. Ben, c'est beau la musique, mais il faut parler des affaires sérieuses et tristes parfois qui arrivent. Il y a eu un article de Tommy Chouinard dans la presse qui a fait beaucoup réagir.
Oui, donc on parle de plaintes pour maltraitance qui ont explosé quand même de 120% en un an. Donc, on parle de la maltraitance particulièrement envers les aînés, mais la loi dont on parle, c'est la loi donc visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés ou personnes majeures en situation de vulnérabilité, loi qui a été mise en place en 2017. C'est à cause de cette loi-là qu'on pense, entre autres, que les peines pour maltraitance ont explosé.
Parce qu'en fait, la question, c'est, il n'y a pas nécessairement plus de cas qui existent vraiment, c'est simplement qu'on en dépiste davantage. En soi, c'est une forme de bonne nouvelle.
C'est une forme de bonne nouvelle parce qu'on pense, en fait, que à cause de cette loi-là de 2017, les gens sont juste plus au courant de leurs droits et des obligations des gens autour d'eux et donc qui reconnaissent plus facilement leur propre maltraitance et la maltraitance envers autrui. Ce qui est, oui, effectivement, une sorte de bonne nouvelle. On peut aussi dire que la loi de 2017 a aussi un nouveau penchant qui oblige les travailleurs du réseau de santé à dénoncer sans délai au commissaire toute forme de maltraitance de laquelle ils sont témoins. C'est une nouvelle partie de la loi là, qui n'était pas en vigueur avant 2017. Donc, ça aussi, ça fait une différence étant donné qu'ils ont maintenant l'obligation et ils s'exposent à des poursuites, à des amendes assez salées s'ils ne le font pas.
Voilà.
Fait aussi une différence, évidemment, dans le nombre de cas qui sont dénoncés.
Il y a plus de omerta à l'intérieur d'une institution. Voilà, le silence est coupable. C'est comme une coupable par omission ou par... par négligence. Évidemment, ça, de dénoncer davantage, on peut penser que ça va avoir un effet coercitif, là, parce que si on pénalise le fait d'omettre de dénoncer, ben, ça augmente le nombre de dénonciations. Ça peut aussi mettre de la pression donc sur les gens qui sont coupables de maltraitance. Il y avait des chiffres associés à cette étude-là dans l'article de Tommy Chouinard il y a des chiffres là-dedans qui ne sont pas surprenants quant au sexe des victimes.
Oui, bon, effectivement, il y a beaucoup de femmes, hein, 66% sont des femmes. Il y a une moyenne de victimes, on parle de 74 ans, donc quand je disais tout à l'heure que c'est principalement les personnes âgées dont on dénonce la maltraitance. On parle également, donc, par rapport aux gens qui sont violents, 61% sont des membres de la famille. Donc, oui. C'est souvent, malheureusement, les proches aidants qui sont dans ces situations-là. Et on parle de maltraitance à la fois financière, à 62%, psychologique, physique, sexuelle et autres. Donc, oui. On parle vraiment de maltraitance au sens large.
Exact. Puis le premier sujet, c'est la maltraitance financière à 62%.
Oui.
Et alors, on peut imaginer que ce n'est pas nécessairement comme on voit parfois dans les médias, la situation qui est tout à fait déplorable, comprenons-nous, de gens qui travaillent dans une institution et qui violentent une personne vulnérable. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de cas, je dirais, insidieux, où ce sont les membres de la famille
qui
harcèlent. Oui, exactement.
Pour avoir plus d'argent ou qui vont disposer des moyens financiers de la personne vulnérable à leur guise. On voit beaucoup de ça, malheureusement. Et le manque de services fait en sorte que parfois, il y a aussi un épuisement psychologique, physique qui vient avec ça et qui pousse à des situations très délicates et très malheureuses.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on a tous comme une obligation. C'est comme la violence conjugale. On a une obligation de dénonciation. Là, on peut pas juste se boucher les oreilles, puis tourner le dos, puis faire comme ça n'existait pas, parce que un jour ou l'autre, nous serons tous âgés de 74 ans et vulnérables, ne l'oublions pas. Et on voudrait que d'ici là, la société se soit amendée. Ce serait souhaitable, voilà. Mais donc, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce que la loi semble être efficace, mais en même temps, ça nous montre la prévalence.
Il y a encore du problème.
Oui, voilà, tout à fait. Il y a une pétition qui circule.
Oui, un peu dans le même ordre d'idée. On a une pétition donc, de 2000 personnes qui a été déposée à l'Assemblée nationale du Québec donc pour des parents d'enfants en situation de handicap qui veulent un accès plus facile à l'aide financière pour apposer des travailleurs à domicile, donc des personnes qui vont les aider au niveau des tâches quotidiennes et avec les enfants qui ont des situations de handicap.
Parce qu'il semble là qu'il y a une forme d'empêchement administratif. Là. Il y a comme, je dirais, un nombre d'étapes un peu inutiles à franchir.
Oui, on parle d'initiative de l'Étoile de Paco, qui est un organisme pour aider les parents d'enfants en situation d'handicap, qui est quand même bien connu au Québec. Mais l'organisme va déplorer effectivement un manque de communication au sein de l'appareil gouvernemental parce que les parents qui sont admissibles, donc, à l'obtention d'un supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels, qu'on appelle le SENS, peinent à obtenir, en plus de ça, des heures d'aide à domicile qui, le domicile est géré là, par le CLSC local. Donc, ils peuvent à la fois avoir accès au SENS sans avoir accès à l'aide à domicile. Il faut qu'ils refassent une demande pour avoir accès à l'aide à domicile, malgré le fait qu'ils soient reconnus comme des enfants nécessitant des soins exceptionnels par l'aide financière, donc par le SENS.
Donc, c'est un peu comme le supplice de Sisyphe dans la mythologie grecque. Là. Ils ont poussé jusqu'au sommet de la colline un immense rocher, là. Ils ont obtenu l'éligibilité à un programme auquel ils ont droit. Mais là, le rocher déboule, puis il faut qu'il se présente au CLSC, puis qu'il recommence à pousser le rocher jusqu'en haut de la colline une deuxième fois. Là, c'est un peu épuisant.
Oui, pour avoir des droits, donc, à des heures, comme je le disais, à des heures à domicile pour de l'aide. Et donc, ce que l'Étoile de Paco dit, en fait, c'est que dès qu'on est admissible au programme financier qui va être admissible, là, les gens qui sont en situation de soins exceptionnels pour leurs enfants, ils voudraient que ça nous rende officiellement par le même titre admissible à des heures de soins à domicile, puisque l'enfant est déjà reconnu comme étant un enfant qui a besoin de soins particuliers. Et donc, ça éviterait de faire une double demande et ça éviterait beaucoup de temps d'attente et ça éviterait d'être accepté à un programme, mais refusé à l'autre,
oui,
qui arrive à plusieurs parents d'enfants en situation de handicap. Et ça rend des délais monstres et beaucoup de complications qui, selon l'Étoile de Paco, ne mènent à rien et n'aident personne.
Bon, ben on espère que cette pétition-là qui a été déposée. En fait, je dois dire que peu de temps après la pétition, on a vu, entre autres, j'ai lu quelque chose récemment, là, comme quoi Manon Massé, Québec solidaire, là, a soulevé la question. Alors, ça fait du chemin. On espère que ce que j'appellerais à prime abord une aberration administrative, mais ce n'est pas la première.
Oui, ça y a une autre.
Voilà, exact. Mais il y a des belles histoires, comme à Verdun, entre autres.
Oui, il y a des belles histoires. Il y a des gens qui ont compris, donc, que l'intégration des personnes en situation de handicap à l'emploi était bénéfice pour tout le monde. Donc, on parle de Studio Verdun, qui est une petite entreprise de physiothérapie qui a accueilli à 3 personnes neurodivergentes au sein de son équipe de travail, dont 2 sont là depuis 5 ans. Et ils ont fait les manchettes parce que, justement, pour leur dire que c'est vraiment une réponse au manque de main-d'œuvre et que les entreprises ont non seulement la responsabilité de faire ça lorsque c'est possible, mais que ça donne aux entreprises également plusieurs bénéfices. Ces personnes-là sont très travaillantes, mettent l'équipe de bonne humeur, peuvent faire des tâches que les autres employés n'ont pas à faire. Donc, ils vont alléger les tâches des autres employés. Et dans le cas de Studio Verdun, c'est une réussite.
Et on a eu le plaisir, il y a déjà quelques années, de recevoir ici à notre antenne M. Samuel Benhamron, qui en est le propriétaire. Et on avait été, on est content de voir que sa bonne idée et son engagement dans ce sens-là continue de se développer. Dans la région d'Ottawa, il s'en passe des choses.
Dans la région d'Ottawa, il s'en passe des choses. Donc, on parle de l'aide à l'emploi, un nouveau programme là, qui va être financé par le gouvernement fédéral justement pour aider à l'emploi des personnes en situation de handicap. On parle d'un projet où les entreprises vont pouvoir être aidées dans leur démarche pour employer une personne en situation de handicap.
Parce que ça, c'est dans le comté de Prescott-Russell. Alors, quand on prend l'autoroute pour se rendre à Ottawa à partir de Montréal, là, à partir du moment où on traverse la frontière et on est rendu en Ontario, ben on est dans Prescott-Russell. OK? C'est pour vous situer un peu tout le monde, là, si vous prenez l'auto ou l'autobus pour aller à Ottawa, ben quand vous êtes rendu en Ontario, ben vous êtes dans Prescott-Russell et là, il reste encore beaucoup d'entreprises qui ont des pénuries de main-d'œuvre, mais là, voici qu'un programme va les aider. L'aéroport d'Ottawa vient de faire un pas en avant pour la reconnaissance des handicaps invisibles.
Oui, ils adhèrent donc au programme Tournesol, qui est un programme dans 200 aéroports qui a été mis en place en 2016. Le programme Tournesol, pour faire simple, c'est le fait que les personnes en situation de handicap peuvent porter un espèce de porte-clés de ruban autour de leur cou qui vont indiquer au personnel de l'aéroport qu'ils pourraient avoir des besoins supplémentaires parce qu'ils sont en situation de handicap. Donc, ça fait un chemin de plus pour essayer de donner de meilleurs services à ces personnes-là.
Parce que souvent, on parle d'handicap invisible, ça peut être neurologique ou cognitif, physique, visuel ou auditif. Dans les aéroports, les gens sont super gentils, mais moi, j'ai une canne blanche, puis ils veulent toujours que j'ai un fauteuil roulant. J'essaie de leur expliquer que ce n'est pas nécessairement ce dont j'ai besoin, à prime abord, mais tout de même, alors, quand les gens ont cette badge ou ce ruban ou ce foulard avec un motif de tournesol, ça commence à être universellement reconnu dans beaucoup d'aéroports dans le monde. Alors, à l'aéroport d'Ottawa, ils viennent d'adhérer à ce programme. Programme qui a été lancé en 2016 à l'aéroport Gatwick, en banlieue de Londres. Et puis, ben maintenant, comme vous le disiez, Lisanne, il y a 200 aéroports dans le monde, surtout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi des lignes aériennes qui forment leur personnel à reconnaître ce symbole-là et de se dire « Ah, peut-être que je dois aider cette personne ou avoir au moins lui demander de quoi elle pourrait avoir besoin ». Si je suis capable de reconnaître ce symbole-là, qui est quand même discret, parce que des fois, c'est un peu gênant d'aller voir les personnes au comptoir puis de tout expliquer. Là. On est plus à l'aise quand on vient nous voir pour nous poser la question. Voilà. Lisanne, on va terminer peut-être juste une petite note, si vous me le permettez. Dimanche prochain, le 29 octobre, comédie musicale Beautiful, The Carole King Musical, présentée au Centre Siegel en anglais, mais avec une audio, un théâtro-description. C'est à 14 et à 19 heures. La vraie histoire inspirante du parcours remarquable de Carole King. Et on connaît toutes ses chansons. Là. Mathieu nous en fera jouer certainement La semaine prochaine. Merci. Ça, c'est dans le calendrier culturel du RAM que vous pouvez consulter. Ben, merci beaucoup, Élisane.
Merci.
Merci. Puis la semaine prochaine, ben, en présentiel, on l'espère.
On l'espère. On verra comment la vie se déroule d'ici là.
Parfait. Ben, merci, Mathieu. Merci, Claire Guérin à la recherche. Bonjour tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. On se revoit. On s'entend.